c'est le temps qui fait la panique.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC.
Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences.
Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Capi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le temps qui fait la panique, votre émission qui analyse l'impact de mots, des discours et du langage sur notre société. Aujourd'hui, nous abordons un sujet préoccupant et d'actualité, la montée en puissance du langage belliciste dans le discours public. Alors que le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo s'intensifie, des phrases comme « on va en guerre » ou « s'il n'y a pas de solution, on va attaquer » se multiplient. Ce qui était autrefois considéré comme un dernier recours semble aujourd'hui devenir un langage du quotidien.
Oui, Ronelly, en prenant par exemple les propos récents du général Muhoozi Kainerugaba, numéro 1 de l'armée ougandaise et fils du président Yoweri Museveni. À plusieurs reprises, sur son compte X, il a menacé d'attaquer la ville de Kisangani et de s'en prendre aux autorités locales. Ces menaces, qui auraient autrefois provoqué un tollé, semblent aujourd'hui s'inscrire dans une rhétorique devenue presque anodine.
Alors, se dirige-t-on vers une véritable banalisation de ce type de discours bellicistes ? Maintenant qu'il est récurrent, ces langages des guerres, fait-il toujours peur ? Et surtout, quelles conséquences peut-il avoir sur la psychologie et le vivre ensemble des habitants et sur les efforts des paix ? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir deux invités.
Notre premier invité est Josaphat Moussamba, chercheur et doctorant en sciences politiques à l'Université de Gand en Belgique. Il est spécialiste des dynamiques sécuritaires de l'Est de la République démocratique du Congo. Bonjour Monsieur Moussamba et merci d'être avec nous.
Bonjour Madame, bonjour Ronelly et bonjour aussi aux deux auditeurs de cette émission.
Notre second invité est Moïse Alieguera, ancien député élu de la province de l'Ituri. Bonjour Moïse Alieguera et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Monsieur Rodelli, bonjour Madame, votre collègue qui nous accompagne dans cette émission.
Merci à tous les deux d'être là. Avant de commencer notre échange, nous vous proposons d'écouter un premier extrait de notre sketch radiophonique. La scène nous plonge au cœur d'une discussion tendue entre des étudiants. Et vous allez le voir, très vite, les discours bellicistes fusent et ne laissent personne indifférent. On écoute.
Salut les gars.
Salut.
Vous allez bien?
Ça va.
Hey, tranquille. Bon, voilà, on démarre les échanges dans une minute, ok? Et en attendant que tout le monde soit là, nous, servez-vous à boire, hein, et mettez-vous à l'aise, quoi. Donc voilà.
Et surtout,
on met là, bon,
et
là,
surtout écoutez bien les potes. Donc, restez sur vos gardes.
Attends. Tu veux dire quoi là exactement?
C'est simple.
Tu veux dire quoi?
Soyez prêts à combattre pour défendre notre caisse. Les gars, vous voyez, il y a déjà du fric qui a disparu. Je peux vous l'assurer, la taxe est la meilleure défense. L'ennemi lui ne dort pas.
Franchement. Il
y a qu'à nous la lato.
Mbouyi, tu crois que ce genre de langage d'appel à la guerre va aider à ce que Mbouta et toi puissiez trouver une solution? Hein? C'est ce que tu crois vraiment? Que Mbouta va trouver une solution à cette histoire des pognons qui manquent? C'est ce que tu crois?
Kitoko, les problèmes, c'est justement Mbouta.
Je dis, de toutes les façons, je ne suis pas sûr que parler comme ça va faire avancer les choses, mon
Mais
ami.
Écoute, grâce à mon expertise et mon flair de guerrier, j'ai l'impression que Mbouta essaye justement de gagner du temps afin qu'elle puisse nous poignarder dans le dos.
Non, écoute,
il n'y a pas de mecs qui tiennent. Nous devons prendre les devants. Oui,
Ah, papa.
C'est sûr qu'elle et ses poulets prévoient des vidéos. Encore lesquels. S'ils tentent quoi que ce soit, ils subiront la riposte la plus foudroyante qu'ils n'aient jamais connue.
Qui dit ça, Mbouta?
À la guerre comme à la guerre.
Baisse ta voix,
à la guerre.
Oh, baisse un peu ta voix là. Mbouta et sa team sont déjà là. Ils vont t'entendre.
S'ils tentent quoi que ce soit, ils subiront la riposte la plus foudroyante qu'ils n'aient jamais connue. À la guerre comme à la guerre, lance l'un des personnages. Alors ma première question est pour vous, Josaphat Moussamba. Les langages bellicistes, c'est-à-dire celui qui menace d'aller en guerre, comment fonctionne-t-il? Pourquoi, à un moment donné, certains acteurs estiment utile de recourir à ce type de discours?
Merci beaucoup pour répondre à la question. Pourquoi est-ce que certains gens recourent-ils au langage belliciste ou bien le discours de la guerre? Il y a quelques éléments qu'il faut comprendre. C'est comment, dans le contexte de conflits, dans le contexte de tensions qui existent entre alors de groupes, pas forcément de groupes communautaires ou alors de groupes ethniques, et lorsque il y a des tensions qui opposent ces communautés ou ces groupes, ça c'est un. Deuxième contexte, c'est le contexte des guerres civiles. Et ce contexte des guerres civiles, il caractérise en fait la production de ce type de discours entre les parties ennemies. Ensuite, d'autres travaux ont été faits sur ces questions de langage belliciste. C'est surtout au niveau de conflits liés au génocide ou bien les atrocités de masse. Et on va voir comment est-ce qu'on construit des idéologies d'extermination, des idéologies d'épuration ethnique. Et donc, cela, il est produit d'une manière ou d'une autre à partir du moment où non seulement des acteurs politiques, même des acteurs militaires, ils vont recourir à ces discours pour dire, si vous voulez, de la peur ou alors inciter d'autres de passer à la fois du discours à l'action. Donc, on peut voir ces éléments dans ces deux types. Et puis, beaucoup d'exemples ressortent à la fois des guerres du Congo. On peut le voir dans le Haut-Plateau, on peut le voir en Ituri, mais c'est aussi, on peut le voir dans les crises qui ont connu en l'ex-Yougoslavie, dans ce qu'on appelle le génocide du Rwanda. Donc, on peut voir ces éléments qui ont été développés d'une manière ou d'une autre. Mais enfin, des guerres passées aussi, des guerres mondiales, on a vu que des intellectuels qui aussi propageaient ces langages de discours lorsque ils ne cessent pas de regarder les compromis dialogues, mais alors, dans certaines manières, c'est des langages bellicistes. On pense que la guerre peut finir tout, pourtant ce n'est pas le cas.
Lorsqu'il faut parler de la récurrence de ces types de langages belliqués, est-ce qu'ils produisent toujours l'effet escompté, notamment celui de faire peur aux adversaires?
Il y a des études, des chercheurs qui ont travaillé beaucoup sur ces éléments-là, en se référant par exemple au cas du Rwanda. Comment est-ce que, en fait, ce qu'on étudie, le rôle des médias dans un certain temps, le rôle de la construction à la fois des idéologies, comment est-ce que ça s'est construit au sein des groupes en conflit? Et c'est là, la récurrence vient maintenant à partir du moment où, à la fois, on cesse de quitter les guerres idéologiques, c'est-à-dire que les deux groupes opposés, ils ont des idéologies différentes, et lorsque ça va se répercuter au niveau local, au niveau, par exemple, de l'antagonisme. C'est un peu comme ça fonctionne, ce que j'ai fait avec un collègue, Professor Vogel, sur la guerre d'information. C'est la même manière que cela fonctionne au niveau de la guerre d'information, comme il n'est pas sur terrain, mais il fonctionne dans ce qu'un Français, Jean-François Le Drian, parle de la guerre cognitive. Ça veut dire qu'on construit une sorte de guerre d'influence sur les gens. Et cela affecte, si vous voulez, la psychologie des gens, ou alors va affecter des nombres de suiveurs. Et d'un moment à l'autre, ce discours, si on peut passer du discours vers l'acte, il y a quelques corrélations à ce niveau, mais c'est toujours important de comprendre comment est-ce que ceux qui construisent les discours sont connectés à des groupes, si vous voulez, en conflit ou alors de groupes armés, et à partir de quel moment les éléments qui développent dans le discours construits et socialisés, comment est-ce qu'on va passer à l'acte? Ça, c'est une autre chose. Par contre, il y a un élément assez important, ce que je voulais qu'on puisse intégrer, c'est qu'il ne peut pas passer du tic au tac, parce que ça nécessite que la personne qui reçoit les récepteurs, qui reçoit les discours, qui veut être socialisé à ces discours belliqueux, qu'il soit aussi disposé, qu'il développe en fait son agencéité, comme on dit, sa disposition à recevoir un discours belliqueux et à l'opérationnaliser sur terrain. C'est-à-dire, soit on profère des menaces d'occupation d'une zone, soit on peut faire des menaces pour en finir avec un groupe armé ou une autre communauté, et on va passer à l'acte au niveau tactique, et là, on va être produire de la violence. Enfin, il y a aussi un élément qu'on peut remettre, ce que moi je remets dans mes travaux, c'est ce qu'on regarde le discours, les pratiques discursives, en fait, des groupes armés. Comme c'est le cas, par exemple, vous avez référé à Muhoozi Kainerugaba, qui est un des chefs d'état-major général, je crois, de l'armée ougandaise, et qui a pris les réseaux sociaux comme, en fait, son moyen de communiquer sur les opérations sur le terrain. Pourtant, les rapports entre l'État congolais et ougandais, ils sont au niveau étatique et ce n'est pas à travers un réseau social de Twitter qu'on communique des menaces envers des officiels congolais ou alors les prises des zones contrôlées par les groupes armés au Congo. Et ça, ben, on essaie de le regarder comme ça. Mais dans quelle mesure cela est construit par l'armée ougandaise de manière générale et comment ça va faire peur à des communautés qui sont exposés dans les zones où les UPDS vont aller.
Merci, Monsieur Moussamba, pour ces explications. Je me tourne vers vous, Moïse Alieguera. Pourquoi, à un certain stade d'un conflit, le langage de guerre semble prendre le dessus sur la logique du dialogue?
Bon, vous savez, madame, dans un contexte des conflits ou de guerre, il y a toujours des manipulations des opinions qui sont montés par des tireurs de ficelles de gauche à droite, comme c'est le cas en Ituri, au Nord Kivu aujourd'hui. Vous savez, pour qu'aujourd'hui nous soyons agressés, il a fallu que nos agresseurs se préparent. Et ils se sont préparés non seulement militairement, mais aussi du point de vue communication. Comme ça que vous voyez, sur les réseaux sociaux, sur les différents médias, il y a beaucoup de discours bellicistes qui divisent les communautés. Je vais vous donner par exemple le cas de l'Ituri aujourd'hui, le général Mouzi qui dit que UPDF est venu défendre quelques communautés. Mais qui sont ces communautés? C'est un discours qui divise déjà les communautés. Mm-hmm. Et on doit justement faire très attention.
Oui, justement, oui. M. Moïse Alieguera, vous êtes ancien député de l'Ituri, hein, une région particulièrement touchée par les conflits. Comment justement vous percevez cette montée du langage belliciste dans les discours politiques? Et selon vous, pourquoi les responsables politiques semblent-ils privilégier ce type de discours au détriment du dialogue?
Lorsque ces discours sont tenus par les politiques ou par les militaires, il ne faut pas les comprendre dans un sens péjoratif. Parce que les cas aujourd'hui du Rwanda et de la République démocratique du Congo, notre pays, ce genre de discours, lorsqu'ils sont montés du côté Rwanda, c'est justement pour monter la population congolaise contre le régime. Mais lorsque les autorités politico-militaires tiennent, c'est justement pour répondre, pour répliquer au discours tenu par les émisseurs du Rwanda afin de diviser les opinions.
Je vous remercie pour cette analyse, Moïse Alieguera. Je vous invite à présent à écouter ces deuxièmes extraits de notre feuilleton radiophonique où on retrouve nos amis, les étudiants, qui cette fois-ci expérimentent les conséquences de la banalisation des discours belliqueux. Écoutons.
Tu disais quoi, hein? On n'a pas entendu de moi.
J'étais très dépêché de ta voix, non? Tu vois maintenant.
Répète ce que
j'ai dit. Tu l'as entendu. Tu auras été prévenu.
Écoute, t'es peut-être habitué à provoquer d'autres étudiants en utilisant ce langage d'aller en guerre, mais avec moi, ce n'est pas comme ça.
Toi, t'es qui?
Keba, je suis guerrière et je suis entourée de guerriers nés et des volcans toujours prêts à vomir la lave. Et à calciner ceux qui se mettent sur notre chemin. Donc attention à toi, Keba.
On va aller à la guerre.
Attendez. Mouta, tu ne penses pas qu'on devrait plutôt discuter sur les vrais problèmes qui font à ce qu'on soit ici?
Tout à fait, Amani.
Quel problème?
Tout à fait. Amani, tu sais, hein, je ne comprends même pas ce que vient faire ce langage de guerre ici, là. Qu'ils brandissent tous les deux pour une simple perte d'argent dans la caisse.
Il y a une petite somme d'argent qui manque. Juste une petite.
Amani, ce n'est pas le montant qui compte ici. Ce n'est pas le montant qui compte ici, c'est le principe. Il est hors de question qu'on soit des lâches. Je suis désolée. Écoutez, les moustiques ne feront jamais peur aux lions. Nous sommes les rois de la jungle. Lions, on va les attaquer.
Aujourd'hui, là. Et moi, je t'ai dit que la tombe que toi et ta clique préparée pour nous, c'est la même tombe qu'on va vous enterrer.
Il m'a touché.
Je suis entouré des guerriers nés des volcans toujours prêts à vomir la lave et à calciner ceux qui se mettent sur notre chemin, menace l'un des étudiants. Moïse Alighiera, dites-nous à quel point la banalisation des discours bellicistes peut affecter le quotidien et la psychologie des populations. Et pensez-vous que ce langage faisant l'apologie du recours à la violence peut à terme normaliser la guerre dans l'esprit des gens, monsieur Alighiera?
Vous savez que quand il y a des langages communautaristes, je dirais ces discours renforcent les tissus communautaristes, ethnicistes, clanistes en sein des communautés locales. Et ces genres de discours doivent être arrêtés. Comme aujourd'hui, nous avons la loi sur les numériques. Il faudrait de mesures d'application de cette loi pour que ces genres de discours soient condamnés et que les responsables répondent de leurs actes. Au demeurant, c'est la population qui en souffre. Il faudrait que le gouvernement congolais, à travers le ministère de la Communication, monte des stratégies pour combattre des propos non seulement bellicistes, parce que, en fond, je ne sais pas si vous faites aussi allusion aux propos communautaristes, aux propos tribalistes, aux propos ethnicistes, clanistes. Dans l'ensemble, ces propos doivent être condamnés.
Et pour vous, Josaphat Moussamba, quelles peuvent être les conséquences de la banalisation de ces discours des guerres sur les relations entre les États et leurs populations?
Lorsque le discours des guerres il est banalisé, il produit des crispations, il va produire une sorte de rejet et il va produire aussi la séparation entre les groupes qui ont existé. On n'est plus dans ces citoyennismes. Tous, on est citoyens du Congo, mais on est dans les replis communautaires. Ça, c'est un. Au niveau étatique, et ça, je voulais vraiment commencer là-dessus, lorsqu'on regarde la guerre qui oppose maintenant, aujourd'hui, le Congo au Rwanda, par, je voulais préciser par rapport à ce que Moïse disait, par le M23 interposé, parce qu'il y a des dimensions. L'agression, bien sûr, mais il y a aussi le M23 qui est un groupe armé et qui est avec des acteurs congolais, bien sûr, appuyé par le Rwanda. Les deux dimensions sont là. Cependant, les deux acteurs ont créé, en fait, des acteurs non seulement au niveau étatique, non seulement au niveau de ceux qui sont censés parler des questions de défense du territoire, à la fois au Rwanda et au Congo, mais vous avez entendu un discours qui semble être justificateur, comme on dit, un discours de sécurité, mais en fait, c'est un discours belliqueux. C'est que le Rwanda, et qui parle de, en fait, la guerre existentielle. C'est important de comprendre ce qu'ils appellent comme guerre existentielle, parce que pour eux, ils doivent faire la guerre, ils ont été rejetés. Alors, ça, c'est pour les M23, mais le Rwanda aussi fait la guerre existentielle parce que ses territoires sont envahis par les FDLR, etc., etc. Donc, ça, c'est un discours belliqueux, mais qui est enveloppé par une approche existentielle. C'est important de savoir dans ce qui nous oppose avec les Rwandais. Et vous allez voir, les relations diplomatiques ont été coupées entre le Congo et le Rwanda. On a coupé toutes les relations commerciales et économiques qui existaient entre le Congo et le Rwanda. Évidemment, évidemment. Et on est en train d'aller au-delà de cette guerre-là qui a atteint le niveau global où, à cause des rôles que les États européens jouent contre l'agression sur le Rwanda, eh bien, le Rwanda a rompu des relations diplomatiques avec la Belgique, considérant que la Belgique s'est rangée du côté du Congo. Et donc, vous voyez que ces éléments sont assez importants, mais ça crée aussi un schisme entre les communautés ou bien les nationalités congolaises. Les populations ont été souvent en interaction dans la région des Grands Lacs là-bas, mais aussi interconnectés. Ce qui fait que ces discours-là, qui ravivent les tensions qui existent entre les communautés, sont à la base aussi des problèmes entre nationalités. Même si les populations, on va commercer, mais il y a toujours cette haine.
Merci, Monsieur Moussamba. Donc, ces discours ont donc un impact sur la population, sur le vivre ensemble entre communautés. Merci encore une fois pour cette analyse qui nous permet d'amorcer la troisième partie de cette émission. Mais avant, retrouvons nos amis les étudiants dans un dernier extrait de notre feuilleton radiophonique. Nous allons voir comment ils apprennent à utiliser un langage plus apaisé après avoir usé et abusé d'un langage belliciste. Suivant.
Non, mais
êtes sérieux? C'est pas normal. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez. Mouta, est-ce que tu te rends au moins compte que ce langage de guerre n'a fait qu'aggraver la situation? Est-ce que tu te rends compte?
Mais regardez,
est-ce que
regardez
tu te rends compte?
Étudiants. On dirait un soldat prêt à s'entretuer alors qu'on était juste là censé discuter sur les pognons qui
manquent. Calmement. On devait discuter calmement.
C'est quoi votre problème? Mon fille Anine.
Le problème est que ce langage de guerre est maintenant banalisé par nos leaders. On dirait que personne ne sait encore qu'il y a d'autres moyens de résoudre les conflits. Donc,
c'est vraiment regrettable. C'est regrettable, je te dis. Comment sortir de là si les soi-disant leaders de chaque camp utilisent ces langages de guerre en menaçant les autres? Vite, attends, comme
vous dites. C'est ça. C'est exactement ça le problème.
Non, mais écoute.
C'est ça le problème.
C'est simple, non? On discute pour savoir où est passé l'argent qui manque dans la caisse. C'est pas sorcier. Akuna yata riba ya msumbua watu kichwa. Mais watu watu wawili ndio watusumbua hapa kichwa na ma déclaration de guerre.
Voilà. Et cela a malheureusement freiné toute voie qui nous conduirait à des discussions prometteuses. Atashkoto sande.
Maintenant là nous sommes donc réunis pourquoi?
Pour rien. Akuna bitu kia fallait moto vendre la biso to yalté.
Au lieu qu'on sorte ici avec des solutions, ce langage nous a polarisé davantage.
Qui te dit?
Mais c'est dommage.
C'est vraiment regrettable. Comment sortir de là si les soi-disant leaders de chaque camp utilisent ces langages de guerre en menaçant l'autre? Demande l'un des étudiants. Je voudrais d'ailleurs vous poser une question similaire, Moïse Alieguera. Alors que les discours belliqueux se multiplient entre les leaders de la région de Grand Lac, comment éviter que ces langages ne puissent se répandre sur les habitants de ces pays?
D'abord, le gouvernement congolais doit adopter une stratégie de communication qui couvre l'ensemble du territoire national. Parce que, vous savez, nos agresseurs ont réussi à infiltrer notre pays à tous les niveaux. C'est comme ça que vous voyez des petits langages qu'ils tiennent, des petits langages bellicistes, belliqués qu'ils tiennent, arrivent à attendre nos populations. Et même ces politiques, aujourd'hui, qui tiennent ces langages, ils ont des ramifications à tous les niveaux. Donc, il faudrait que les gouvernements arrivent à couvrir à travers sa communication, l'ensemble du territoire national, pour informer notre population de la réalité qui se passe en sein de la scène politique, tant locale que nationale. Mais aussi par rapport aux enjeux régionaux, internationaux, voire même mondiaux, par rapport à la résolution de cette crise sécuritaire qui jalonne l'est de la République démocratique du Congo, plutôt dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu.
Moïse Alieguera, en face de nous, on n'a pas non seulement les acteurs politiques, nous avons les médias, nous avons les acteurs de la société civile, nous avons les institutions d'enseignement. Qu'est-ce que toutes ces organisations peuvent faire aujourd'hui pour contrer cette banalisation du langage belliciste et promouvoir un discours de paix?
D'abord, c'est de faire leur travail. Vous, le journaliste, les médias, vous devez faire votre travail conformément à l'éthique, conformément à la loi. Il y a la loi qui encadre aujourd'hui les médias. Donc, vous devez, les journalistes, les médias doivent faire leur travail conformément à ce que dit le texte. Une information qui n'est pas vérifiée, qui n'est pas vérifiable, ne doit pas être diffusée. Vous avez la désinformation qui circule. Vous avez une population divisée. Vous avez des opinions divisées. Aujourd'hui, je constate que certains textes, notamment la loi sur la numérique, n'est pas observée. Et il n'y a pas de mesures d'application. Ces mesures d'application doivent suivre pour que cette loi soit strictement appliquée et pour aujourd'hui permettre à ce que chaque personne qui tient un discours, que ce soit un discours qui observe la loi sur les numériques, parce que la loi là condamne des propos bellicistes, des propos belliqués, des propos ethnicistes, divisionnistes.
Oh, merci, Monsieur Alieguera. Monsieur Josaphat Moussamba, est-ce qu'il y a un autre langage qui soit plus approprié pour aboutir à une solution négociée à la crise actuelle?
Vous parlez de notre langage qui va influencer en fait la crise actuelle. Je pense que ce langage se joue au niveau diplomatique. Et il se passe au niveau diplomatique à l'égard de nos oreilles ou alors de notre accès. C'est un langage qui se joue lorsque, par exemple, le président de la République congolais et le président rwandais ils se retrouvent à Doha. Ça, c'est un autre type de langage diplomatique qui va. On ne peut pas parler les armes, on va discuter. Et c'est celui-là, on ne dit pas à nous, le bas peuple, voyez-vous. Et donc, mais, lorsqu'on regarde, par exemple, les crises entre les États, ou alors le problème, comme le disait Moïse, qui oppose des communautés ou des groupes armés à l'intérieur du territoire national, c'est un autre type, si vous voulez, langage de discussion, les dialogues qui peuvent se faire avec des parties tierces. Par contre, je pense plutôt que des processus qui ont existé, par exemple le processus de Nairobi, le processus qui rassemblait des groupes armés à discuter, les PDDR s'est sorti à un certain moment pour se démobiliser, ou alors discuter comment ils vont alors vivre tout en étant dans l'antagonisme, mais en réduisant en fait l'ampleur de la violence produite sur les communautés.
Merci, Monsieur Josaphat, pour parler d'une politique qui va réguler ce secteur-là de la vie en général et pas seulement appliquer au moment où il y a la guerre. Vous avez parlé un moment de Doha, Monsieur Moussamba. Le 9 avril prochain, justement, des discussions directes sont annoncées au Qatar entre le gouvernement et les rebelles du M23. C'est peut-être le signe que finalement le langage du dialogue est en train de reprendre le dessus sur la rhétorique des guerres omniprésentes ces derniers temps.
Exactement. On était surpris, mais surpris positivement, à partir du moment où tous les processus ont commencé déjà depuis 2022-23 et même jusqu'en 2024, un processus qui a échoué à Luanda, et celui-là qui devait commencer encore en mars là, mais il a échoué au profit d'un processus qu'on a vu à Doha. C'est assez important de regarder comment Doha, le Qatar, a finalement réuni les deux présidents secrètement et a ouvert d'autres canaux de discussion avec les acteurs pour dire « Les combats continuent, chacun préserve son territoire, mais on continue à parler. » C'est comme ça que les guerres entre États ou bien les guerres civiles se résolvent. On continue à parler, on va continuer le combat sur terrain, mais on continue à parler. Comment est-ce qu'on va finir ça? Non seulement à bilatéral, mais des parties tiers, des parties qui peuvent avoir non pas de l'ascendance, de l'influence sur les acteurs. Et on peut voir Doha a de l'influence. Et cette influence, est-elle, la question, c'est seulement, est-elle politique, est-elle économique, est-elle comment, est-elle individuelle? On se souviendra que le président rwandais avait sollicité cela et on a vu que le président Tshisekedi aussi a été là-bas. Donc, des questions à se poser, on va se les poser les questions, mais on voit d'abord que les dialogues avec un acteur majeur, très influent, est parvenu à inviter le président Kagame, le président Tshisekedi, qui sait peser les guerres. Les discours bellicistes, on se rappellera, les discours bellicistes qui a été divulgué pour comme quoi le président devait changer le régime au Rwanda. Le président rwandais a fait des discours aussi belliqueux contre le président Tshisekedi, on en veut. Mais finalement, il se retrouve devant un président qatari. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Est-ce qu'ils se sont proférés ces discours-là? Ou alors, ils ont d'autres intérêts que eux deux connaissent pour lesquels ils voudraient vraiment qu'on puisse enterrer et discuter pour voir comment aller de l'avant. Et ça, c'est très important.
Merci, M. Moussamba. C'est sur cette note que nous mettons fin à ce 14e épisode de C'est le temps qui fait la panique pour cette année. Encore une fois, nous venons de voir que les mots ont un pouvoir immense. Utilisés mal, ils peuvent diviser, alimenter les tensions et normaliser la violence, mais ils peuvent aussi être un outil de paix si on se sert du langage avec responsabilité, Ronelly.
Oui, Babel, ces langages bellicistes, s'il devient la norme, il risque de désensibiliser les populations et de banaliser la guerre. Il est donc essentiel que le responsable politique, les médias et les citoyens prennent conscience de leur rôle et de leurs responsabilités dans la promotion d'un langage de paix.
Merci à nos invités, Josaphat Moussamba et Moïse Alieguera, pour leurs interventions. Merci également à Debs Vita qui nous a accompagnés du côté de la régie technique. Et bien entendu, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité.
Retrouvez cet épisode en rediffusion sur nos ondes, c'est samedi à 11h05 et 19h05 ou en podcast sur www.radioocapi.net et www.abarirdc.net. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur nos pages Facebook et X. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est le temps qui fait la panique. Au revoir.
Au revoir.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Capitaine.